Les Actes des Apôtres, chapitre 3. Guérison d'un infirme, versets 1 à 11.
Lecture de la parole. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui est la neuvième, et emportaient un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant, avec Jean, arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha, et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu, et ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme ils tenaient par la main Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique, appelé de Salomon.
Lecture de l'étude. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la neuvième de la journée, soit 15 heures chez nous. Les disciples juifs reconnaissaient encore le temple comme la maison de Dieu, une maison de prière, ainsi que le Seigneur le rappelle en Luc 19, verset 46, jusqu'à ce qu'ils eussent compris toute la vérité concernant l'Église ou assemblée, dont on a vu la formation au chapitre précédent.
Luc 19, verset 46. Il est écrit « Ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. »
Elle remplaçait Israël comme témoignage de Dieu sur la terre. Plus tard, le Seigneur leur enseigna à quitter Jérusalem et le Temple avant leur destruction par les Romains. Comme Pierre et Jean arrivaient, on portait au Temple un homme, boiteux dès sa naissance, que l'on plaçait à la porte du Temple, dite la Belle, pour y mendier. Au moment où les apôtres allaient entrer, cet infirme leur adressa sa demande. Et Pierre ayant, avec Jean, arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva. Et à l'instant les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Versets 4 à 8. Cette guérison rendait un témoignage public à la valeur et à la puissance du nom de Jésus-Christ le Nazaréen, devant ceux qui l'avaient méprisé durant sa vie ici-bas, en le traitant de Nazaréen, l'avaient rejeté et mis à mort. Au milieu du peuple, Jésus avait accompli de grands miracles qui auraient dû convaincre les Juifs qu'il était réellement le Messie promis. Maintenant que Dieu l'a ressuscité et glorifié, et fait Seigneur et Christ, comme Pierre le dit au verset 36 du chapitre précédent, son nom a la même puissance au moyen des apôtres qui en sont simplement le canal. Tous les témoins de ce miracle étaient remplis d'étonnement. Avec cette guérison, nous voyons se produire les mêmes effets que ceux de la conversion. Ce qui caractérisait cet homme, c'était la pauvreté et l'incapacité de marcher. Il était assis et mendiait. Après sa guérison, il marchait, sautait et louait Dieu. Son cœur était plein de reconnaissance envers le Seigneur qui l'avait si merveilleusement délivré. Dans son état naturel, tout homme ressemble moralement à cet infirme, sans ressources et incapable de suivre la pensée de Dieu. Mais par la puissance du nom de Jésus, toujours à la disposition de la foi, il peut marcher d'une manière qui glorifie Dieu, le cœur rempli de reconnaissance, de louange et d'adoration. Si nous sommes au nombre de ceux qui possèdent le salut, n'oublions pas qu'en effet, c'est pour marcher d'une manière digne de Dieu et pour le louer dès ici-bas que Dieu nous a délivrés du triste état dans lequel le péché nous avait tous plongés. Et comme il tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon, verset 11. Si ce peuple avait pu demeurer dans ses sentiments d'admiration et se repentir en reconnaissant dans ce miracle la puissance et la grâce de celui qu'ils avaient crucifié, quelle bénédiction ils en auraient reçu. Hélas, nous verrons déjà dans ce chapitre qu'il n'en fut rien et qu'il persévéra dans son refus de croire en Jésus et de le recevoir. Témoignage de Pierre au peuple, versets 12 à 16.
Lecture de la parole. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré, et que vous avez renié devant Pilate, lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier, et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous, nous sommes témoins. Et, par la foi en son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous.
Lecture de l'étude. Profitant de la présence de la foule attirée par le miracle accompli, Pierre annonça devant tous comment la guérison s'était opérée et les invita à croire en celui qu'ils avaient crucifié afin qu'ils reçussent les bénédictions promises par les prophètes. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple : Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Verset 12. Le monde cherche toujours à attribuer à l'homme ce qui lui donne du renom, et l'homme vise à s'attribuer ce qui revient à Dieu. Mais les apôtres se savaient les simples instruments de la puissance du Seigneur. Un instrument n'a de valeur que s'il se laisse manier par celui qui l'emploie. Pour Pierre et Jean, il n'y avait rien d'étonnant à ce miracle. Ils connaissaient la puissance de celui en qui ils avaient cru et que Dieu avait glorifié, toujours le même. C'est ce que Pierre va leur dire. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous, vous avez livré, et que vous avez renié devant Pilate, lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins, versets 13 à 15. Le Dieu de leur père avait fait des promesses, et il avait envoyé Jésus pour les accomplir, mais eux l'avaient mis à mort. Tout était-il perdu pour cela? Absolument pas. Dieu accomplirait ce qu'il avait promis au moyen de son Fils, sur qui reposaient toutes ses pensées. Aussi Dieu l'a ressuscité et glorifié. Les apôtres en étaient témoins. Il l'a fait asseoir à sa droite, jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. Psaume 110, verset 1.
L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. »
Quoique rejeté par son peuple, rien ne pouvait empêcher la manifestation de la puissance de ce Jésus glorifié, sauf l'incrédulité des Juifs qui les prive, pour un temps, de toutes les bénédictions à eux destinées. De même, aujourd'hui, les résultats glorieux et éternels de la venue du Seigneur en grâce dans ce monde s'adressent à chacun et tous ceux qui croient se les approprient. Seule l'incrédulité de ceux qui repoussent le message de la grâce les en prive. Pierre place devant les Juifs quatre grands chefs d'accusation qui font ressortir leur terrible culpabilité au sujet du rejet de Jésus. Premièrement, ils l'ont livré. Deuxièmement, ils l'ont renié devant Ponce Pilate, alors que celui-ci voulait le relâcher. Troisièmement, ils lui ont préféré un meurtrier. Quatrièmement, ils l'ont mis à mort. Appelé le saint et le juste, le Seigneur était reconnu pour être tel. Mais dans leur haine, ils lui préfèrent un meurtrier. Lui, le prince de la vie, ils le mirent à mort. Mais Dieu le ressuscita, ce dont les disciples étaient témoins. Il est impossible de trouver une contradiction plus grande dans l'histoire de l'humanité, ainsi qu'une pareille culpabilité. Ces faits inouïs montrent l'abîme moral qui sépare l'homme de Dieu, son incapacité de juger de toute chose selon Dieu. La présentation de son Fils l'a prouvé. Mais cette constatation si humiliante pour l'homme fait ressortir la grâce de Dieu qui, après une pareille expérience, lui offre son pardon et le bonheur éternel. Pierre continue en disant, et, par la foi en son nom, son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez, et la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres en la présence de vous tous. Verset 16. Le nom est l'expression de la personne. C'est ce nom-là, le Seigneur lui-même, mis à mort par les Juifs et ressuscité par Dieu, qui a accompli ce miracle. Il suffit d'avoir la foi pour profiter de sa puissance. La preuve incontestable était sous les yeux de tous. Qu'en feront-ils? Nous le voyons au chapitre 4, versets 16 et 17.
Que ferons-nous à ces hommes? Car il est apparent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été fait par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit.
Pierre appelle le peuple à la repentance. Versets 17 à 26.
Lecture de la parole. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc, et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Et même tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi annoncé ces jours. Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. » À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés.
Lecture de l'étude. Ce que Pierre présente dans la suite de son discours avait une importance capitale pour le peuple. De son acceptation ou de son refus dépendait sa bénédiction ou sa ruine. Il a choisi la ruine. L'homme ne sait faire autre chose si Dieu le laisse à sa responsabilité. La ruine des Juifs dépendait du rejet du Christ. Mais Dieu voulait encore user de grâce envers eux. Sur la croix, le Seigneur avait intercédé pour ceux qui le mettaient à mort, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. En vertu de cette prière, Dieu, par la bouche de Pierre, leur offre de se repentir, afin que le Seigneur revienne du ciel et leur apporte les bénédictions dont ils s'étaient privés en le mettant à mort. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir, verset 17-18. La grâce de Dieu veut bien admettre que le peuple avait agi par ignorance en faisant mourir le Seigneur. C'est ainsi que Dieu pouvait considérer leur acte jusqu'à ce qu'ils eussent rejeté le témoignage que le Saint-Esprit rendait par les apôtres à Christ glorifié, et cela en réponse à l'intercession du Seigneur sur la croix. Par le rejet de Jésus, Dieu avait accompli ce que ses prophètes avaient prédit, savoir que son Christ, ou son oint, devait souffrir. Mais il ne faudrait pas conclure de cela que les hommes sont moins coupables de l'avoir mis à mort. Ils portent l'entière responsabilité de leur acte inqualifiable. Ils l'ont livré, non pour que Dieu accomplisse ses desseins de grâce par la mort de son Fils, mais pour satisfaire leur haine contre lui, contre Dieu dont il était la manifestation en grâce, parce qu'il ne pouvait plus le supporter au milieu d'eux. En même temps, par sa mort, il accomplissait les desseins de Dieu pour le salut des pécheurs. À cela, les hommes n'ont rien à voir. Dieu a choisi le moment où leur haine, où leur péché, était à leur apogée, pour manifester son amour parfait qui voulait les sauver. C'est pourquoi il fallait que Jésus souffrît de la part de Dieu le jugement dû au péché. Pendant que Dieu considérait le peuple comme ayant agi par ignorance, il lui fait dire par Pierre, « Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés. » En sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Versets 19 à 21. Si donc les Juifs s'étaient repentis et convertis, s'ils avaient changé de pensées à l'égard du Seigneur, en reconnaissant l'affreuse faute commise en le mettant à mort, leurs péchés auraient été effacés, et le Seigneur serait redescendu du ciel pour établir son règne, ce que Pierre appelle les temps de rafraîchissement de devant le Seigneur dont tous les prophètes avaient parlé. Ce moment était donc décisif pour le peuple. Que fera-t-il? Les Juifs vénéraient profondément les prophètes. Ceux-ci avaient parlé du Seigneur, de sa venue, de ses souffrances, de son exaltation, de son retour pour accomplir les promesses faites au Père. Les écouterait-il? Plus encore, écouterait-il le témoignage du Saint-Esprit par la bouche de Pierre? Non. Animés d'une haine implacable à l'égard du Seigneur, ils refusèrent la dernière offre de la patiente grâce de Dieu. Pierre leur cite encore Moïse, le plus vénéré des prophètes, qui avait parlé de Jésus, ainsi que des conséquences qui menaçaient les indifférents. Moïse déjà a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. » Citation de Deutéronome 18, versets 15 à 19. Et il ajoute, et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé ont aussi annoncé ces jours, versets 22-24. Il fallait être aveuglé par l'esprit d'incrédulité pour ne pas comprendre. Les prophètes avaient annoncé la venue de Christ et les bénédictions qui en résulteraient, mais on devait le recevoir. C'était à eux que ces prophéties s'adressaient. Pierre leur dit, « Vous, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. » À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de vos méchancetés, versets 25-26. Quoi de plus clair? Tout dans ce discours était propre à toucher le cœur du peuple et à ouvrir ses yeux. Dieu avait établi une alliance avec Abraham. Elle reposait sur la fidélité de Dieu pour l'accomplir. Ce Dieu fidèle avait envoyé son oint pour cela, mais il ne pouvait rien faire tant que les Juifs demeuraient dans leur incrédulité. Ils devaient se repentir. Le Seigneur les avait exhortés à se détourner de leur méchanceté. Dieu avait envoyé avant lui Jean le baptiseur, qui leur avait dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Matthieu 3, verset 2. Mais en vain. Au lieu de l'écouter, ils l'ont tué. Si le Seigneur avait accompli des miracles, ils avaient délivré du joug des Romains, sans leur parler de leurs péchés, ils l'auraient reçu. Mais ce n'aurait pas été le règne de la justice, où le péché ne peut être supporté. Les droits d'un Dieu saint n'auraient pas été reconnus. Dieu ne peut se départir de ce qui convient à sa nature pour être agréable aux hommes. Le Messie ne pouvait établir sur des pécheurs le règne de la justice, car elle les aurait tous fait périr. En parlant du règne millénaire, il est dit « Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays. » Psaume 101, verset 8. Aujourd'hui encore, on voudrait un Dieu qui satisfasse les désirs des hommes, leur épargne les conséquences du péché, transforme ce monde en un paradis selon leur gré. S'il en était ainsi, les hommes croiraient en lui. Mais ce Dieu qu'il voudrait n'est pas celui que Jésus est venu révéler. Un Dieu qui est amour, en même temps juste et saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Pour maintenir ce que Dieu est, au milieu d'un monde souillé et perdu, il fallut la croix où la justice de Dieu contre le péché a été satisfaite, sa sainteté maintenue par le jugement que le Seigneur a subi, afin que l'amour de Dieu puisse être connu des pécheurs. Un jour, cette création, réconciliée avec Dieu par l'œuvre même de la croix, ressemblera à un paradis sous le règne du Fils de l'homme. Les hommes y seront heureux, ils jouiront des bienfaits de Dieu répandus en tout lieu. Voir Ésaïe 2, versets 2 à 5.
Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront, et beaucoup de peuples iront et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il jugera au milieu des nations, et prononcera le droit à beaucoup de peuples, et de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. Venez, maison de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel.
Ésaïe 55, versets 12 et 13.
Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché.
Ésaïe chapitre 65, versets 17 à 25.
Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, et ils ne monteront pas au cœur. Mais réjouissez-vous, et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation, et son peuple une joie, et je m'égayerai sur Jérusalem, et je me réjouirai en mon peuple, et on n'y entendra plus la voix des pleurs et la voix des cris. Il n'y aura plus, dès lors, ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours, car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront, et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre, et mes élus useront eux-mêmes l'ouvrage de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ni n'engendreront pour la frayeur, car ils sont la semence des bénis de l'Éternel, et leur postérité avec eux. Et il arrivera que, avant qu'ils crient, je répondrai, et pendant qu'ils parlent, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. On ne fera pas de tort et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.
Ézéchiel 34, versets 23 à 31.
Et je susciterai sur eux un pasteur qui les paîtra, mon serviteur David, lui les paîtra, et lui sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je ferai avec eux une alliance de paix, et je mettrai fin aux bêtes mauvaises dans le pays. Et ils habiteront dans le désert en sécurité, et dormiront dans les forêts. Et d'eux, et des alentours de ma colline, je ferai une bénédiction, et je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction, et l'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera son rapport, et ils seront dans leur terre en sécurité, et sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai brisé les liens de leurs joues, et que je les aurai sauvés de la main de ceux qui les tenaient asservis. Et ils ne seront plus en proie aux nations, et les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Mais ils habiteront en sécurité, et il n'y aura personne qui les effraie. Et je leur susciterai un plan de renom, et ils ne seront plus enlevés par la famine dans le pays, et ils ne porteront plus l'ignominie des nations. Et ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux, et que, la maison d'Israël, ils sont mon peuple, dit le Seigneur l'Éternel. Et vous, mon troupeau, le troupeau de ma pâture, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel.
Mais ces temps-là n'arriveront qu'après les jugements terribles par lesquels Dieu ôtera tous les méchants de la terre, surtout ceux qui, dans les temps actuels, refusent de croire au Seigneur Jésus comme sauveur. Il est très important et instructif de considérer le caractère sous lequel le Seigneur est présenté aux Juifs dans ce chapitre, en contraste avec le chapitre précédent et dans la suite. Au chapitre 2, Pierre répond à ceux dont le cœur est saisi de compunction après avoir compris la gravité de leur situation à la suite du rejet de Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Environ 3000 âmes crurent, furent baptisées et ajoutées à l'assemblée déjà constituée par la venue du Saint-Esprit. Le chapitre 3 forme une sorte de parenthèse dans le récit de l'établissement de l'Église, en ce que Pierre ne prescrit pas aux Juifs de se repentir et d'être baptisés pour recevoir le Saint-Esprit et faire partie de l'Église. Il leur dit bien « Repentez-vous et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, mais c'est afin que viennent des temps de rafraîchissement et qu'il envoie Jésus-Christ, en d'autres termes, pour qu'il établisse son règne de paix et de justice sur la terre. » C'était, nous l'avons dit, un dernier appel aux Juifs comme peuple, fondé sur l'intercession de Christ sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le refus de cet appel, consommé par le meurtre d'Étienne au chapitre 7, eut pour conséquence le rejet des Juifs jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 23, verset 39. Dès lors, l'Évangile fut annoncé à tous, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Individuellement, tout Juif pouvait recevoir le Seigneur et être sauvé. Mais s'il croyait, il ne faisait plus partie de son peuple que Dieu avait mis de côté. Il appartenait à l'Église que le Seigneur viendra chercher avant de reprendre ses relations avec Israël et établir son règne sur la terre.